Intermondial.
Un CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Bon lundi, j'espère que ça va bien dans votre petit coin de pays, que vous soyez à Québec ou n'importe où dans le monde. Ouais, salut, bonjour, bienvenue à Boulevard 101. Bienvenue dans l'heure CV, mon nom est Pascal. Je m'installe avec vous jusqu'à 11h. C'est un grand privilège d'avoir cette heure-là en collaboration avec tous et chacun qui écoute. Petite demande spéciale aujourd'hui, lundi matin, on prend notre café, peut-être le premier, le sixième ensemble. 418-971-1021. Qui est là et d'où vous écoutez l'heure CV à Boulevard 102.1? Alors, ça peut être aussi sur Twitch que ça se fait parce que on est en diffusion, en direct avec les caméras. Ici, en studio, il y en a trois pour trois angles différents et c'est totalement gratuit. Twitch, c'est ça, en fait, c'est de la radio avec une image. Si vous faites du télétravail ou si vous êtes au bureau, vous avez un deuxième écran, vous pouvez mettre à côté de vous puis on jase tout le long comme ça. C'est twitch.tv/BLVD/FM. Fait beau, hein? Magnifique journée. Vraiment, là. On a un hiver assez exceptionnel. Hier, on a eu encore quelques bordées de neige. Fallait que je sorte à quelques reprises. J'ai déneigé. Vraiment, là, tu sais, avoir un besoin clair, pas juste partir les essuie-glaces, là, de déneiger ma voiture au moins 4 fois. Mais c'était pas une corvée, c'est le fun. Ça veut dire que peut-être qu'on va être sur les pentes de ski cet après-midi. Aller faire quelques descentes pour en profiter du soleil comme ça puis de la neige qui s'est installée dans la capitale nationale. Avec moins 12 en ce moment, ça reste très confortable. Moins 12, oui. Maximum moins 8 aujourd'hui. Alternance soleil-nuage. Ouh, ce soir et cette nuit, c'est la nuit la plus froide qu'on a connue dans les derniers jours. Moins 22, collez-vous. Partez feu de foyer, mettez des gros bas, puis aimez-vous. Faut s'aimer dans ce temps-là. Ça réchauffe le cœur. Il y a beaucoup de choses en fin de semaine qui se sont passées. Même un point de presse un dimanche de François Legault. Honnêtement, c'est surprenant. Est-ce qu'on souhaitait qu'il soit entendu peut-être un peu moins que les autres? Il est là le point, justement, du point de presse. On va en jaser avec notre expert Jérémy Gio dans quelques minutes. En fait, bien sûr, c'est lundi. On va accueillir Frédéric Bérard, avocat chroniqueur. Frédéric est du côté du Salvador en ce moment. Il s'en va tourner un documentaire ou quelques images là, pour les droits humains. J'ai pas tout compris, mais il va nous l'expliquer parce qu'on se parlait à distance ce matin. Puis il n'y a pas beaucoup de réseau où il est en ce moment, mais il y a du Wi-Fi, fait qu'on va aller rejoindre Frédéric pour son entrevue, sa chronique quotidienne du lundi, justement par Zoom. OK, on se place. C'est lundi. Salutations à mes amis de La Planque et du Cendrillon, deux endroits par excellence où aller à Québec. Là. Encore une magnifique soirée samedi passée là-bas. C'est des gens qui nous encouragent aussi à la radio qui décident d'être commanditaires avec nous. Ça fait plusieurs années que je vais là. Moi, toujours bien manger, bien bu. L'ambiance est le fun. Si vous cherchez un endroit de date ou juste un endroit pour vous gâter, vous, là, moi, ça m'arrive régulièrement d'aller dans un resto à Québec. Un peu weirdo, là, mais seul avec mon livre au comptoir puis jaser avec les serveurs. Prendre un bon verre, prendre une bonne bouffe quand ça ne me tente pas de me faire à manger, bien, c'est deux endroits où je vous conseille de le faire, ça, c'est sûr. C'est les mêmes proprios, là. C'est sur la 3e avenue. Magnifique destination, seul, accompagné ou entre amis. Grosse gang, petite gang ou avec toi-même, là. J'ai vraiment eu du plaisir. Puis on parlait de quelques projets qui pourraient vous intéresser, là, à plus long terme. On en jasera de ça. Bon lundi, ouais, bien, les salutations commencent à entrer. Quelqu'un qui dit Boulevard, c'est mondial, effectivement. Avec l'application de Boulevard, là, on est pas mal mondial. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en fin de semaine? En avez-vous profité? Parce que, je veux dire, c'était magnifique comme condition. Je vois Bernard Drinville en ce moment à la télévision, lui, son week-end, je ne sais pas s'il en a profité, mais il est clairement dans des gros dossiers ces jours-ci. Là. Les négociations dans le secteur public pour l'éducation sont recommencées. Il y a des mesures pour répondre aux objectifs là, qui sont en cours. Mais ça sera de grandes semaines. On commence à entrer dans ces gros dossiers-là, dans les ministères, les différents ministères, en santé, mise en demeure contre Christian Dubé, ministre de la Santé, la semaine dernière, par des médecins. Ça va brasser cette année, dans l'économie aussi. Un peu partout autour de nous, finalement, il va falloir être patient avec nos élus, qu'on soit d'accord ou pas. Là. Ils en ont par-dessus la tête. Installez-vous confortablement. On part ça, leur CV, Fortune Cookie Club, qui ont repris It's All, une chanson que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Une chanson estivale que j'ai écoutée beaucoup dans l'été 2022. Et là, Fortune Cookie Club a repris pour cette chanson-là pour la mettre un peu à son image. On s'en va écouter ça à Boulevard 101. Merci d'avoir choisi leur CV. CV. Vous êtes nombreux à l'écoute ce matin. C'est le fun de savoir qu'est-ce que vous faites en ce moment, où est-ce que vous êtes. Je parlais des deux écrans, des fois en télétravail. Un que vous pouvez mettre sur Twitch, puis l'autre sur votre travail. Puis il y a des gens qui m'envoyaient des photos. J'ai aussi reçu ce qu'on attend tous. Oh oui, la saison des sucres. Et ça commence, il y a de l'entaillage qui se fait auprès d'un de nos collègues. Je dis ça parce qu'on est des collègues dans leur CV. Merci beaucoup pour les photos. Salut Pierre aussi, qui est dans Promenade dans le bois et qui a mis son casque d'écoute pour être avec nous aujourd'hui pendant cette heure-ci. L'entaillage, on a-tu hâte de manger ces cornets-là? Ces cornets-là pleins de tire d'érable avec le beurre d'érable sur le top. C'est Martin qui nous écrit, qui est en train de faire ça. Bonne saison des sucres qui débute. Bon début de printemps. Moi, je clame déjà que le printemps est là, c'est un peu ce qu'on a. J'ai des amis qui sont allés en ski hier puis qui me parlaient du fait que les conditions sont belles. Il y a quand même cette petite couche de glace en dessous de toute la neige qui est tombée, mais il y avait de la poudreuse en masse. Hey, Frédéric Bérard s'en vient à l'émission, mais avant, je veux vous gâter comme ça, là, lundi, pour les fans de lutte, c'est le temps. Parce que le 27 mars prochain, il y a la All Elite Wrestling. Ça s'arrête ici dans la ville de Québec, au Centre Vidéotron. Des lutteurs de Dynamite et Rampage qui vont s'affronter. Chris Jericho. Cho. Je sais pas si je le dis bien, pas au petit. T'sais, je sais que Denis est meilleur dans prononciation. Au pire, riez de moi. Kenny Omega, les Young Bucks seront là et plusieurs autres. Et pour la toute première fois, ici, au Centre Vidéotron, il y aura l'assassin aérien Will Ospreay qui va performer au Centre Vidéotron. Il faut pas manquer ça. Les billets sont en vente, oui, sur gestev.com et ticketmaster.ca. Présentation de Live Nation. Mais moi, je vous en offre une paire dès maintenant au 418-971-1021. Ça va être super simple. On continue. Continuez les salutations, puis dans votre salutation, d'où vous nous écoutez, qu'est-ce que vous faites, vous êtes là combien de fois par semaine dans leur CV à Boulevard 102.1, faites juste me dire que vous êtes aussi intéressé pour les billets, parce que je prends les salutations comme ça, mais je veux quand même que vous ayez un certain intérêt pour les billets si on vous y envoie à la lutte au Centre Vidéotron, hein? Le 27 mars prochain, ça s'en vient, ça? 418-971-1021.
Ce n'est pas qu'un simple...
Lundi, 10h16, c'est l'heure d'aller rejoindre notre collaborateur hebdomadaire dans leur CV, puis il est loin en ce moment. Il est dans un endroit qu'on peut se demander pourquoi. Mais pour lui, c'est quelque chose de très intéressant en ce moment qui se passe au Salvador. Et le voici, le voilà, par Zoom, c'est même pas par téléphone, parce qu'on voulait s'assurer que la ligne coupe pas. Salut Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, auteur et maintenant grand voyageur au Salvador.
Allô, Pascal.
T'as l'air d'être au chaud. Comment ça se passe là-bas? T'es parti quand là, pour le Salvador?
Écoute, je suis parti vendredi. Je te confirme que je suis au chaud. Et j'adore être au chaud. Pour moi, moins de 20 degrés, c'est du gros froid.
OK, on est même pas au gros froid aujourd'hui. C'est quand même le fun, là, à Québec. Là.
Non, pas moins que moins 20, moins que 20.
Ah, degrés? Ça, c'est... Oh,
oui, non, non, non. Ça, oui, oui.
Bon, avant là, t'es strict.
Le Québec est intéressant en juillet, en août, côté c'est... température.
Maintenant, fin septembre.
Septembre, quand on est chanceux, mais oui, voilà. Mais,
mais là, t'es au Salvador, c'est pas nécessairement pour des vacances, on en reparlera, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là-bas, mais t'es plutôt pour tourner quelques images ou encore aller chercher de l'information sur les droits humains de là-bas, mais on parle pas souvent de Salvador, ça brasse énormément. C'est un endroit où on devrait justement avoir quelques caméras une fois de temps en temps, côté médiatique et actualité internationale. Mais d'abord et avant tout, je voulais prendre toutes tes connaissances en droit, en tant qu'avocat associé aussi, parce que la semaine dernière, il y a une nouvelle qui est tombée en deux cracks. Et c'est une mise en demeure qui a été envoyée à Christian Dubé, le ministre de la Santé. En fait, il y a un bras de fer en ce moment entre les médecins de famille et Christian Dubé qui est peu discuté là, dans les médias au quotidien. Et c'est un bras de fer qui a durci. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a mis en demeure, c'est pas rien quand même, un ministre, là, le ministre de la Santé. Et on veut les forcer en fait à en faire plus. Eux ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Le syndicat des médecins déplore qu'on a mis ces gens-là devant le fait d'accomplir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi envoyer une mise en demeure à un ministre? Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Est-ce que ça peut faire changer les choses ou c'est une perte de temps?
Bien, habituellement, quand t'envoies une mise en demeure à un ministre, là, c'est que les... Comment on dirait ça? Le dialogue est rompu, disons ça comme ça.
On a essayé de parler, puis ça n'a rien donné.
Très clairement, où on a été pris par surprise. Puis c'est ce que dit le syndicat ici, essentiellement, parce que c'est un syndicat dont on parle. Est-ce que ça veut dire que la mise en demeure est une réelle perte de temps? Pas nécessairement, parce que, bon, une lettre de mise en demeure, en droit, c'est pas grand-chose. Ça reste une lettre de menace, entre guillemets, mais ça peut faire parfois bouger les choses, hein, essayer d'asseoir une espèce de rapport de force. On peut aussi penser que d'un point de vue relations publiques, ça peut être d'intérêt parce que les médias pourraient en parler. La preuve, on en parle ce matin. Autrement, probablement que ça serait passé comme une lettre à la poste. Personne n'aurait discuté de l'enjeu. L'autre affaire aussi qui est possible, c'est qu'il y a un fondement légal à tout ça. J'ai lu rapidement là, ce que tu m'as envoyé. Je ne donne pas d'opinion juridique formelle, mais à première vue, je ne crois pas qu'il y ait de motifs légaux sérieux qui permettraient une action en justice. Donc, très clairement, on est fort probablement dans le rayon de la menace et du rapport de force et des relations publiques, beaucoup plus que dans le rayon du droit.
Mais ça, le ministre de la Santé doit le savoir. Est-ce que ça a vraiment un poids sur lui? Si recevoir cette lettre-là, c'est un peu comme recevoir une lettre de son correspondant, là.
Oui, un peu, oui. C'est une lettre de correspondant fâché là, qui est déçu qu'on ne l'ait pas consulté sur tel ou tel casier. Non, honnêtement, oui, évidemment, là, qu'est-ce que fait un ministre quand il reçoit une lettre de mise en demeure? Premièrement, c'est pas lui qui la lit. Là, il n'est pas trop stressé avec ça. Il envoie ça au ministère de la Justice et attend un avis juridique. Et dans ce cas-ci, je serais prêt à parier que l'avis juridique du ministère de la Justice à Christian Dubé, c'est « Stresse pas avec ça, on va prendre un café, tout est beau. »
On s'en occupe.
Sous toute réserve, évidemment, je ne connais pas le dossier à 100%, mais on voit ça aussi en matière d'immigration, en matière d'agriculture, en matière de transport. Des mises en demeure qui s'envoient à des ministres, c'est très fréquent de la part de citoyens, de regroupements surtout.
Ah oui?
Ou de ce cas.
Ah oui? Ouais, tu as vu ça souvent dans ta carrière, toi?
Moi, je l'ai fait souvent, en fait.
En tant qu'avocat, envoyer une mise en demeure à un ministre?
Oui, mais quand je le fais, puis là, chacun ses stratégies, mais moi, quand je le fais, c'est que je considère que j'ai des motifs légaux derrière la procédure. Moi, j'aime pas menacer dans la vie, j'aime mieux dire ce que je vais faire. En d'autres termes, voici où on s'en va, j'envoie une mise en demeure parce que c'est le processus, parce que je vous donne la chance de régler l'enjeu avant qu'on aille à la prochaine étape. Mais bluffer pour bluffer, il y a des clients parfois là, qui aiment ça quand on essaie de faire peur avec des mises en demeure, puis là, j'essaie de leur faire comprendre. Un ministre qui a peur d'une mise en demeure, là, ben, il faut qu'il sorte de la cuisine là, parce qu'il fait trop chaud. Là. Ce n'est pas un vrai ministre. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment de... En tout cas, moi, je ne connais pas de ministre qui stresse avec une mise en demeure, sauf si, évidemment, il y a des motifs légaux sérieux qui sont amenés à même la procédure.
Puis dans ce cas-ci, envoyer une mise en demeure à un ministre comme Christian Dubé en santé, je vous rappelle, c'est parce que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec met en demeure le ministre de la Santé. On veut forcer ces médecins-là à en faire plus. On n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est vraiment contre la personne ministérielle, soit Christian Dubé, ou c'est plutôt au ministère qu'on envoie cette mise en demeure-là, mais puisqu'il est le représentant du ministère, cette mise en demeure lui est adressée. Est-ce que ce serait lui, par exemple, qui irait en cours? C'est plutôt le ministère. Comprends-tu ma question?
Oui, absolument. Elle est très, très, très pertinente, en fait. On apprend ça en droit administratif au bac en droit. Ce qui est un cours de 2e-3e année. Donc, ce n'est pas un cours de première, c'est un cours de 2e-3e. Si demain matin, François Legault disait « Bon, à la santé, là, Dubé, tu t'en vas, je t'envoie peu importe à l'éducation, puis je mets Drainville à la santé », bien, comme par magie, comme ça, systématiquement, ce sera Drainville qui sera maintenant visé par la mise en demeure.
Okay.
Donc, c'est pas tant le bien, c'est son ministère, oui, mais c'est le rôle du ministre au sens très impersonnel comme tel, ce qui fait en sorte que même cette mise en demeure-là s'appliquerait encore le jour où le gouvernement Legault se fait dégommer, puis qu'un gouvernement du PQ, un gouvernement du Parti libéral ou autre, ça ne change pas non plus. Donc, c'est une espèce de créature un peu impersonnelle, essentiellement, mais qui peut être poursuivie devant les tribunaux.
Puis dis-moi, dans le sujet, pour le terminer, admettons qu'on décide d'aller plus loin dans cette mise en demeure-là ou dans une mise en demeure X, quelles sont les conséquences pour le ministre en soi? Ce serait-tu de lui demander de démissionner? Ce serait-tu une somme d'argent? Ce serait-tu de reculer sur sa position, comme dans ce cas-ci, lorsqu'on demande de diminuer les tâches qu'on souhaite ajouter à ces médecins de famille-là dans leurs tâches au quotidien? C'est quoi les conséquences?
Ben, tu vois, dans ta question, il y a deux volets. Je vais répondre aux deux. Le premier volet, c'est que tu ne peux pas poursuivre un ministre personnellement parce qu'il a ce qu'on appelle une immunité dans le cadre de ses fonctions. Encore faut-il qu'il ait agi dans ce même cadre-là. Donc, un ministre qui décide, moi, je n'écoute pas tel syndicat, moi, je fais telle affaire, moi, je subventionne X plutôt qu'Y, vous n'avez aucune chance de réussite ou à peu près si vous décidez de poursuivre un ministre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il aura agi dans le cadre de ses fonctions. Si par contre, Christian Dubé sort dans la rue avec un fusil puis il se met à tirer, ben là, c'est une autre histoire.
Oui.
Parce qu'on n'est plus vraiment dans. En tout cas, j'espère qu'on s'entend sur le fait qu'on n'est plus dans le cadre
De
des
son
fonctions ministérielles.
travail, oui.
Voilà, ben c'est parce que je dis ça, mais c'est parce que c'est Trump qui. Les avocats Trump sont allés plaider ça, hein, devant les tribunaux américains. Un président a le droit de tirer sur qui il veut, puis il a une immunité complète. Les tribunaux ont dit, ben non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et puis, tu as donné une petite anecdote. Au Québec, il y a une grosse histoire dans les années 50 qui est très connue. C'est l'affaire de Ron Carelli contre Duplessis. Duplessis, qui était à la fois ministre de la Justice et premier ministre, qui est quand même assez pratique, avait décidé de faire retirer le permis d'alcool à Ron Carelli, qui était un témoin de Jéhovah, qui subventionnait, qui essayait de donner un coup de main en payant les cautions des Jéhovah qui se faisaient injustement arrêter par la police de Duplessis ou les polices municipales. Et à un moment donné, Duplessis s'est tanné, puis il a retiré son permis d'alcool à Ron Carelli en disant, lui, il est toujours contre moi, puis ça m'énerve.
Son permis
Et la
d'alcool
pauvre.
parce qu'il était tenancier de bar aussi
Oui,
ou
exact.
OK.
Je vais commencer avec ça. Excuse-moi. Oui, il y avait un restaurant qui fonctionnait très bien, mais Ron Carelli s'amusait à baver Duplessis en payant les cautions de tous les Jéhovah. Et Duplessis avait la mèche assez courte pour ce genre
Tu
d'affaires-là. Donc,
t'auras
il a
plus
fait.
d'argent, t'en vendras plus de drink pour
Voilà,
payer
il a fait
ça.
retirer son permis d'alcool, mais absolument sans motif, là. C'était purement arbitraire. Et la Cour suprême du Canada, il a dit, ben, ça passe pas, ça, pas comme ça que ça marche dans un État de droit. Tu n'étais plus dans le cadre de tes fonctions de ministre ou de premier ministre dans ce cas-ci. Je te condamne à verser, je pense que c'était quelque chose comme 55 000 piastres, mais en
Au
dollars des années.
personnel ou avec l'argent du gouvernement?
Personnel,
OK.
connaissant Duplessis, je serais pas mal certain que les contribuables
On va
ont
aider.
sûr, ouais. J'ai pas la
Spécule.
preuve, mais je soupçonne.
Oui, soupçonne. Fais attention, toi, l'avocat. T'es actuellement, Frédéric, au Salvador. Ça brasse pas mal. Tu dis que tu étais dans un trou en ce moment. C'est pourquoi tu n'avais pas vraiment de données cellulaires et on se parle par Zoom. Mais t'es là pour des reportages sur les droits humains. Pourquoi?
Ben, écoute, c'est un fantastique pays, le Salvador. Je commencerai avec ça. C'est pour te rendre jalouse, là, 300 km de plage, okay, pour te donner une idée. C'est ce qu'on appelle le pays du surf. C'est magnifique. Sauf que depuis plusieurs années, le Salvador était considéré comme étant un des pays les plus dangereux au monde. En fait, avec le plus haut taux d'homicide, ni plus ni moins, d'une année à l'autre.
Envers des
Et
kidams ou envers plutôt des gangs de rue, contrôle de drogue?
Des gangs de rue ici là, terrorisaient, puis je parle au passé, en moitié au passé, la population. C'est une population de 7 millions et quelques à peu près actuellement. Or, tu avais 75 000 personnes qui terrorisaient les touristes, qui faisaient qu'il n'y en avait plus, pas de tourisme essentiellement, et menaçaient aussi la population. Moi, tu vois, ici, là, je suis dans une espèce de raccoin, je suis à San Diego, qui est considéré comme un des spots les plus dangereux au San Salvador, et on m'a expliqué ça après, mais il n'y a rien qui tourne. En d'autres termes, c'est un sens unique. Puis une fois que tu arrives au fond, moi je suis au fond, ben tu es coincé. Et les gangs de rue attendaient les gens en fin de soirée, par exemple. Il y avait des trucs aussi atroces. Je vais le raconter parce que je pense que ça vaut la peine pour donner une image. Mais disons, des gens arrivaient ici en famille. Les gangs de rue allaient voir le père, puis disaient, bon, ben ta fille nous accompagne. Puis si ta fille nous accompagne pas, ben on tue tout le monde.
OK.
Alors,
Puis on
c'est un
passait à
nouveau.
l'action, là. Ce n'était pas qu'une
Oui,
menace, une mise en demeure, là.
il n'y avait pas de mise en demeure
Non,
à Christian
c'est
Dubé.
ça.
Apparemment, ça se faisait assez vite.
Ouf.
Ce qui fait que, il y a ça quelques années, il y a un gars qui s'appelle Bukele qui a été élu. Et lui, il a dit, bon, moi, les droits humains, c'est bien beau, là, mais je m'en fous. Et il a fait arrêter à peu près tout le monde de manière arbitraire pour lutter contre le crime organisé. Ça a fonctionné, évidemment. Le crime a chuté de manière stratosphérique. Écoute, il y a de ça pas très longtemps, puis même en fait cette semaine, il y a des restos qui ferment à 7 heures. Je dis, mais un resto qui ferme à 7 heures, c'est pas vraiment un resto, là, tu sais, samedi soir. Je dis, ouais, mais on ne veut pas sortir trop tard. Or, ça commence, cette culture-là de peur, si tu veux, commence à s'estomper justement parce que les politiques de Bukele ont fonctionné. Mais moi, je m'interroge, puis je suis d'accord avec la répression contre le crime organisé. Évidemment, là, ça va de soi. Sauf qu'il y aurait peut-être une manière de le faire quand même, c'est-à-dire en accusant ces gens-là et en leur faisant un procès. Or, on n'en fait pas, on les laisse pourrir en prison sans accusation. Évidemment, sur 75 000, tu auras compris.
Il y a peut-être des erreurs, mais oui.
Oui, puis il y en a un paquet là-dedans qui sont. Puis ça, c'est connu, là, qui sont innocents. Là, je commence à faire sortir des reportages, des témoignages. Je parle avec un avec l'autre. Et quand tu es en dedans, par exemple, le fils d'une famille à qui j'ai parlé ici, qui est injustement emprisonné apparemment, ben on lui dit, bon, ben écoute, si tu veux manger cette semaine, écris à ta famille, c'est 160$, sinon rien du tout. Donc, tu sais, évidemment, il y a de la corruption, il y a de la magouille. Ukulele est allé aussi plus loin. Il se fait, écoute ça, il s'est autoproclamé, Pascal, le dictateur le plus cool au monde.
Ah ouais, OK. Ça me fait penser à Vladimir Poutine qui disait que c'était l'homme le plus bel homme au monde. Là. On est encore dans ces tops-là.
Tu me diras que ça se discute, mais au moins la beauté, si elle est subjective, elle a quand même un petit côté poétique.
Oui.
Mais dictateur, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, c'est pas très poétique. Or, lui, il a trouvé une manière de spinner ça. Comme par exemple, il dit, bon, il y a 5 juges de la Cour suprême sur 15 qui me tapent ses nerfs. Il les a congédiés, puis il les a remplacés par ses chums. Et là, tout à coup, la Cour suprême lui a permis de se représenter pour un deuxième mandat, ce qu'il n'aurait pas eu le droit de faire autrement.
Ah, j'entends.
Donc, de petite magouille. Là, pour tout de suite, ça va bien. Il est ultra populaire. Les gens ont voté pour lui à 85% le 5 février, donc ça fait à peu près 2 semaines. Sauf que moi, ma petite prédiction, c'est que ce genre d'affaires-là, c'est le fun quand ça marche bien, mais quand le gars commence à vouloir virer l'avantage, le bien commun à son avantage, là, c'est le bordel.
Ah, parce que débordement.
Voilà.
Oh, et on va pouvoir voir ça où, ces petits reportages-là, Frédéric Bérard?
Bien, on peut les entendre à Boulevard chaque lundi à 10h, commencer.
Oui.
Puis ça sera évidemment par vidéo. J'annoncerai une nouvelle plateforme bientôt.
Superbe. Un gros merci d'avoir été avec nous. Frédéric Bérard, avocat, auteur. Ben là, t'es rendu quasiment journaliste, mon cher. Là. Mais assurément chroniqueur ici dans l'heure CV. Effectivement, à 10h10 environ les lundis. On se reparle la semaine prochaine.
Salut,
à bientôt. Merci beaucoup. Si vous avez des questions pour Frédéric, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'il aborde, c'est intéressant aussi d'aller chercher son expertise dans plusieurs choses comme avocat. Vous le savez, c'est collaboratif ici. Vous m'écrivez 418-971-1021 ou n'importe quel de mes réseaux. I Lost My Baby de Jean Leloup. Moi, quand mes collègues me mettent des chansons comme ça, sachant très bien que je suis fan fini de Jean Leloup, ça me fait plaisir de vous les envoyer dans vos oreilles à Boulevard 102.1. Une de ses meilleures. Probablement trop chantée au karaoké, mais on va laisser Jean Leloup la chanter ce matin.
Avec Pascal CV.
Merci d'être là, tout simplement. Vos textos entrent énormément. Je vais faire un petit refresh dans les prochaines minutes, puis je sais, on a lancé un concours un peu plus tôt. Faut pas s'affoler. Je vous jure que le nom de la gagnante ou de la gagnante sera dévoilé dans les prochaines minutes. Je vous avais dit qu'on allait lui parler à notre expert en politique ici dans l'heure CV, Jérémy Gillot, qui a accepté aujourd'hui d'aller commenter une couple de sujets, dont un qui a presque passé inaperçu. Faire un point de presse un dimanche, ça parle. Oui, Jérémy Gillot est directeur chez TAC. Il a travaillé longtemps en politique fédérale et provinciale, puis c'est un bonheur de l'accueillir ici dans l'heure CV. Salut Jérémy, bon lundi.
Bon lundi. C'est une stratégie politique de relations publiques, hein, les points de presse du dimanche.
Ouais, mais là, l'affaire, Jérémy, c'est que, je veux dire, qui ne la voit plus, cette stratégie-là? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient que c'était comme ça, dans l'horaire, et on pensait pas du tout que ça allait passer en deux cracks, là, quand on a choisi le dimanche pour faire un point de presse? Y a-t-il du monde qui croit encore ça?
Non, puis du côté du gouvernement, on savait que ça allait faire du bruit et on voulait que ça fasse du bruit. D'ailleurs, moi, c'est ce que je trouve le plus inélégant de toute la sortie de François Legault cette fin de semaine. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut trouver des solutions à la pénurie en éducation, à mieux payer les enseignants, à convaincre les jeunes d'aller enseigner. Mais ce qui vient me faire dire que c'est inélégant, pour le moins, ce qui s'est passé ce week-end, c'est qu'on mette le fardeau sur ceux et celles qui dédient leur vie à l'éducation de nos enfants. On parle de dizaines de millions de dollars pour améliorer leurs conditions de travail puis leur salaire. Quand de l'autre côté, au gouvernement, l'année dernière, on a dépensé 3,5 milliards de dollars pour nous envoyer des chèques.
OK, on va recommencer à la base, parce que ça, c'est fascinant quand même en fin de semaine comme point de presse. Effectivement, François Legault a pris la parole dans les dernières heures. Ils se sont félicités quand même pour la dernière année. Bien sûr, on se félicite toujours, c'est important de le faire.
Mais, comme dans le dos, ça fait du bien.
Oui, on s'est félicité aussi pour les ententes de principe qu'on a fait dans le milieu de l'éducation. Mais effectivement, il y a un point que tu amènes, en fait. François Legault était au centre là, de son trio. Tu avais une Sonia Lebel qui a été une des négociatrices avec les syndicats. Et tu avais un Bernard Drinville, ministre de l'Éducation. Alors, il était entouré de ses deux acolytes. A fait un point de presse là, en bonne et due forme, là, avec le micro devant, les drapeaux du Québec derrière. Et effectivement, qu'il y a une partie de ce point de presse-là qui était d'évoquer que lors du prochain budget provincial, soit le budget de la CAQ, il y aura un large déficit en raison des investissements massifs qu'on a faits et qu'on a octroyés dans le secteur de l'éducation durant les négociations de conventions collectives qu'on vient de vivre. Là, tout le monde a vécu la grève, là, puis on est encore un peu là-dedans, veut pas. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse, c'est de dire, bon, voyez-vous, Québécois, Québécoises, prochain budget qui sera largement déficitaire parce qu'on a eu à négocier avec les enseignants et ça nous a coûté cher.
Bien, c'est ça qui n'a pas de bon sens. Puis ça nous a coûté cher, ça nous a coûté des dizaines de millions de dollars pour aider nos profs à mieux enseigner à nos enfants puis avoir des conditions de travail qui sont acceptables. Moi, c'est ça que ça rajoute de l'insulte à l'injure pour moi. L'année dernière, on a baissé nos impôts, ça a coûté 1,7 milliard de dollars à l'État. On a envoyé des chèques aux Québécois puis aux Québécoises. Ça a coûté 3,5 milliards de dollars.
Va pas trop vite. Va pas trop vite là-dessus. C'est intéressant, Jérémy, parce que, tu sais, moi, je suis pas, premièrement, en finance, en économie. Je suis pas experte.
Ouais.
Surtout les dossiers là, d'économie au gouvernement. Mais jasais avec beaucoup de gens dans le domaine au courant de la dernière année. Puis beaucoup ont dit, justement, bon, la facilité, la première, c'est de dire... On a acheté des votes. En gâtant les gens là, sur les baisses de taxes, sur des chèques envoyés, les gens sont comme « Ah oui, la CAQ, on aime ça, c'est bon, c'est le fun, c'est de l'argent dans nos poches. » Mais on envoyait ça un peu à la va-vite, à des gens qui n'en avaient pas nécessairement besoin aussi. On a vidé beaucoup de coffres en envoyant ces chèques-là. Après des erreurs administratives assez monumentales pour moi, du genre la PCU dans le temps, au fédéral, bien sûr, mais quand même des aides provinciales.
Oui, mais ça, c'est du gouvernement fédéral.
C'est ça, comme je disais, fédéral dans le temps, mais il y a quand même aussi de l'aide provinciale qui a été octroyée à certains moments. Puis bon, on n'est pas allé chercher ceux qui en avaient abusé. Puis en envoyant ces chèques et en faisant ces baisses d'impôts-là, finalement, on a juste retardé le problème de l'inflation, puis on l'a même grossi à travers les dernières années, ce problème-là.
Bien, on a fermé les yeux, du moins, pour aller chercher du capital politique. Et à travers tout ça, là, on sort des chiffres ce matin, puis on parle du point de presse et tout ça. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on sent qu'il y a des politiciens ou même des syndicalistes qui essayent de se faire du capital politique sur ce dossier-là. En ce moment, il y a un processus qui est en cours. Il reste des fils à attacher pour ratifier l'entente avec les enseignants, pour passer à travers. Et là, cette guéguerre-là de relations publiques entre le gouvernement puis les syndicats qui s'en rajoute, ça escalade tout le temps, ça aide pas la situation. C'est pour ça que je disais d'entrée de jeu que c'était inélégant. Laissons le processus suivre son cours puis arrêtons de faire en bon français, des stunts de relations publiques pour aller chercher de la sympathie ou pour dire que nous, on a raison, puis pas eux, pour régler le problème, puis améliorer la qualité de vie, la qualité de travail puis d'enseignement qu'on a au Québec.
Bien, la stratégie me semble un peu grossière parce qu'elle est évidente. Elle est où la subtilité dans les communications publiques? Elle est où la subtilité? Tu sais, moi, j'aime mieux me faire avoir sans m'en rendre compte, là. Si... j'aime pas l'expression, mais il y en a qui disent des fois, ben, tu as un petit lubrifiant, une petite vaseline, mais là, j'ai l'impression que ça nous frappe au visage à quel point c'est un peu grossier comme façon de faire. Je comprends que, oui, il y a des sommes importantes qui ont été octroyées. Il y a eu un rattrapage aussi au niveau du salaire des enseignants qui n'avait pas été fait. C'est une convention collective qui était échue depuis longtemps. D'abord et avant tout, bien, pour beaucoup d'enseignants, c'était sur les conditions de travail, ce qu'on n'a pas été capable de bien militer auprès des syndicats puis que les enseignants sont fâchés contre leurs propres syndicats en ce moment aussi pour la bataille qui a été menée. Mais d'encore aller taper sur la tête des enseignants pour ce qui viendra dans le budget provincial. Est-ce que les gens qui nous écoutent, les auditeurs, est-ce que vous voyez cette stratégie-là? Est-ce que vous la trouvez bonne? Elle me semble grossière et évidente.
Bien, je ne peux pas parler pour tes auditeurs, mais pour moi, je ne comprends pas la stratégie du gouvernement là-dedans. Est-ce qu'on fait le pari qu'il y a une majorité silencieuse à quelque part qu'on n'entend pas? En même temps, ce syndicat-là, on se rappelle, c'est à peu près 540 000 travailleurs et travailleuses au Québec. Mm-hmm. Donc, je ne comprends pas le pari du gouvernement. Tout au plus que M. Drainville, il y a une bonne histoire cette semaine à raconter. Je ne sais pas si tu as suivi ce dossier-là, mais il y a le projet de loi 47, si je ne me trompe pas, qui va venir réglementer puis serrer la vis aux gens qui se font suspendre, qui ont des dossiers d'harcèlement au travail. Ils ne pourront plus changer de centre de service scolaire à un autre sans que leur dossier les suive. Pourquoi on n'a pas juste sorti là-dessus dimanche? C'est une bonne nouvelle.
La loi qui vise à renforcer la protection des élèves, entre autres, là, par rapport à des débordements.
Pour mieux protéger nos élèves.
Oui.
Pourquoi on n'est pas juste sorti là-dessus à place de revenir mettre de l'huile sur le feu d'un dossier qui est en voie de se régler? Moi, c'est ça que je comprends pas dans tout ça.
De mettre la lumière sur autre chose que ce dit projet de loi-là qui pourrait servir. Justement, il y avait un article ce matin à ce sujet-là, puis je l'ai envoyé à notre chroniqueur éducation, mais c'est la presse plus qui a titré « Parfois suspendu, rarement congédié », justement pour des enseignants qui peut-être avaient... déborder.
Le gouvernement avait une belle histoire dans son sac. Il pouvait parler de ça dimanche. Il aurait pu faire une intervention là-dessus. À la place, on a choisi de revenir taper sur la tête des enseignants. Des enseignantes, moi, j'ai un peu de la misère avec ça. D'autant plus qu'on voit aujourd'hui que c'est comme un petit boomerang qui leur revient dans le front ce matin.
Mais j'ai une question pour toi, Jérémy, parce que quand je vois ça, moi, je vais me permettre, j'ai le droit de mettre une opinion au micro, tu sais, mais je trouve que c'est de la petite politique. Et bien que j'ai été derrière, en partie majoritairement, le gouvernement en place lors de la pandémie, parce qu'on vivait tous quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, c'est dur à ficeler, ça pétait de tous les bords. Dans tous les ministères, il fallait essayer de trouver des solutions par rapport à cette crise sanitaire qu'on vivait, cette pandémie-là. Mais par la suite, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de courage, qu'il y avait des communication facile, grossière comme on a vu hier, des erreurs et des échecs monumentaux. Je veux dire, juste le revirement du troisième lien ici à Québec, le rififi qu'on a entre le provincial et la mairie de Québec, plus parce que je ramène ça à la capitale nationale. Cette petite politique-là que j'observe me fait peur quant à la gestion de gens qui sont au pouvoir d'un gouvernement. J'ai l'impression qu'on joue à faire de la politique, puis peut-être que tu vas me trouver trop critique, mais en ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'on joue à faire de la politique, puis je sais que je vais insulter des gens, là.
Mais je te trouve pas trop... Je suis totalement d'accord avec toi. On dirait qu'il manque une ligne directrice à ce gouvernement-là. Je comprends que c'est une coalition, mais moi, je dis souvent en politique, quand tu prends des décisions basées sur tes... fondamentalement, là, sur les valeurs dans lesquelles tu crois, tu te tromperas pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais on va pouvoir prédire ce que tu vas faire à une situation d'avance, parce que les gens vont avoir été habitués à c'est les valeurs que ce parti-là véhicule et c'est là qu'ils vont aller.
Mais là,
on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne directrice dans leurs décisions.
On dirait qu'on veut plaire à tout le monde pour être certain d'être élu, mais ça, c'est ma vision extérieure, là. Et là, j'ai un puissant problème avec ça. Souvent dans la vie, puis même dans les médias, on dit « reste authentique et fidèle à qui tu es, là, et vulnérable et à l'écoute des opinions diverses, parce que de toute manière, tu ne plairas pas à tout le monde. Et si tu essaies de plaire à tout le monde, c'est là où ça ne fonctionnera jamais. On ne croira pas en toi. » Et c'est un peu la prétention qu'on pousse ce matin en ondes ensemble, mais le gouvernement de la CAQ, dans les décisions, les prises de parole, semble juste vouloir se faire réélire. Puis pour moi, c'est ça, manquer de courage politique en ce moment-là. Il y a tellement des enjeux importants.
Il y a un dicton qui dit « Le rôle des autres est déjà pris, joue ton rôle à toi.
» J'adore ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu le chef? C'est-tu le manque de ficelage entre les ministères? C'est-tu le fait qu'on a pris trop d'écart entre le rattrapage qu'on avait à faire dans les dernières années et le momentum d'aujourd'hui? C'est-tu le manque de finances? J'aimerais ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Un peu toutes ces réponses. Moi, je trouve que ce qui ferait du bien à ce gouvernement-là, c'est peut-être un petit remaniement ministériel, de changer, pas nécessairement de changer les joueurs clés, mais de positionner les joueurs clés dans d'autres portfolios. Il y a des gens qui ont ces portfolios-là depuis 6 ans maintenant. Ça fait longtemps. peut-être de faire un petit brassage de cartes, ça ferait du bien.
Je suis pas d'accord avec toi. C'est là que je veux t'entendre plus, parce que moi, vois-tu, je verrais ça comme un problème. Je me dis, oh non, 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 dans les ministères tellement chauds, en plus, il faut pas recommencer à zéro avec une nouvelle personne qui va devoir apprendre comment ça se fait, ça se gère, apprendre à connaître sa nouvelle équipe, revoir des dossiers, les relire. En vrai, moi, je suis sceptique quant à cette solution-là. C'est intéressant de t'entendre.
Moi, j'aime ça, des remaniements ministériels dans certains dossiers, parce que des fois, quand on est trop le nez collé dans notre dossier, on ne voit pas. Les ministres, ce n'est pas nécessairement des experts de leur secteur. Les ministres, c'est des gens qui sont capables de prendre des décisions basées sur l'information qu'on leur donne.
Un genre de gestionnaire, oui.
C'est un gestionnaire. On lui arrive avec des chiffres, avec des documents de décision. Il rencontre des acteurs du milieu et là, il va trancher, il va dire à son ministère, on s'en va dans cette direction-là. Mais quand ça fait trop longtemps que tu es dans ton bureau de ministre, puis que tu te fais influencer par tes fonctionnaires, puis la machine, puis la fonction publique, bien là, des fois, tu vas peut-être avoir tendance, tu as un lien de complicité qui s'est développé avec ton équipe de fonctionnaires, etc. Et des fois, tu vas avoir tendance à suivre trop tes fonctionnaires. Ou des fois, il va y avoir une animosité qui s'est développée avec ton équipe ministérielle. Et là, tu vas suivre trop tes parties prenantes, puis les entreprises, les organisations qui viennent te voir. Bien, des fois, un petit changement, un petit brassage de cartes, ça fait du bien parce que ça amène une perspective nouvelle. Je prends par exemple la ministre de l'Habitation. On a toujours l'impression qu'elle prend du bord des propriétaires, puis on n'a jamais l'impression qu'elle prend en compte ce que les locataires vivent. Mais d'amener une nouvelle personne dans ce ministère-là, ça peut peut-être faire du bien. Même chose dans d'autres ministères. C'est pas de changer tes figures de proue, mais c'est peut-être de faire une petite rotation, d'envoyer tes joueurs dans d'autres dossiers que tu identifies clés pour les enjeux à venir.
En ce moment, le 19 février 2024, toi, tu crois que ce serait peut-être une bonne solution que de revamper...
À la fin de la session, là.
À la fin de la session, OK.
La session passée, là, mais à la fin de la session, il faudrait un petit... Parce que là, on a l'impression qu'ils ne sont jamais capables de sortir d'une crise.
Mais moi, j'ai l'impression que si on fait ce ménage-là puis ce switch-là, on va perdre du temps encore plus dans un genre de gouvernement désorganisé. J'aime ça qu'on brainstorm ensemble ce matin, Jérémy.
C'est des conseils gratuits pour le gouvernement.
Oh, sainte! OK, mais toi, tu vois là, qu'en ce moment, ce serait peut-être plus positif. Là,
c'est parce que là, on a l'impression qu'ils s'en vont nulle part. Après ça, c'est sûr que ça prend... M. Legault disait, on va retrouver notre boussole. Ils n'ont pas retrouvé leur boussole en 2024.
Non, ils ont perdu le nord, là.
Puis, c'est ça, à un moment donné, ça va prendre... Peut-être, est-ce que c'est de recentrer les communications au bureau du premier ministre pour s'assurer que tout soit uniformisé, comme pendant la COVID? Mais il va falloir qu'ils trouvent la recette magique parce que 2 ans en politique, c'est court, mais ça peut être très long aussi.
Oui, les journées peuvent être longues aussi, par contre, ces temps-ci, j'ai l'impression. Hey, Jérémy Gillot, salutations distinguées, comme dit un certain auditeur sur Twitch.
Bien, merci beaucoup.
À la semaine prochaine, au revoir. Jérémy Gillot, qui est expert, bien sûr, en communication, je veux dire, il est directeur chez TAC, mais il fait aussi, augure d'un CV très étoffé en politique fédérale et provinciale pendant plusieurs années. Connaissance approfondie de tout ça et bon débatteur dans ses positions. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme solution, vous? Est-ce que vous êtes plus du style Jérémy Gillot, on fait un ménage là, et on change les ministres de ministère, ou encore on conserve ça comme en ce moment, puisqu'il y a déjà le feu un peu partout dans chacun des ministères, puis vous voyez ça comme une petite perte de temps, un peu comme de mon côté. Alors, on les sort du nez devant l'écorce. On enlève leur nez qui est pris devant l'écorce, ou encore on les laisse travailler de fond encore dans ce qu'ils ont commencé. On n'aura pas la science infuse, mais on peut en discuter, ça. Hein? Oui, ça, c'est sûr qu'on peut faire ça. Merci à Jérémy Gillot, qui est avec nous une couple de fois, par mois, ici à Boulevard 102.1, dans leur CV. Obsolète et vulgaire machin dans vos oreilles. Merci d'avoir été dans l'heure CV, une émission qui se conclut sous les airs des vulgaires machins obsolètes. On aime ça. 10h53, restez là dans un instant. Yannick Marceau s'en vient, Tom Gauthier. On passe le midi avec vous jusqu'à 14h. On a des bien beaux invités. C'est un show pas mal booké, qui s'amène dans vos oreilles. Je vous rappelle que la journée sera belle. Elle est déjà magnifique avec un soleil partout dans la capitale nationale. Moins 12 degrés, c'est ce qu'on ressent. Ça va monter peut-être jusqu'à moins 8, c'est le maximum aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, il va falloir se coller l'été, va falloir se réchauffer dans une grosse couverture moins 22. C'est une des bonnes nuits fraîches qu'on a, ben, on va dire froide, rendu la moins 22. Le démarreur à distance va être votre meilleur ami demain matin. Mais mardi, demain, c'est du soleil. Mercredi, du soleil aussi. Et des températures qui seront de plus en plus confortables, même au-dessus de zéro. Est-ce qu'on se voit sur des pistes de ski tantôt? Peut-être. Profitez-en bien de cette journée-là. Bon lundi. À tout de suite dans Marceau le midi.